Dame Eliabelle apparemment ne soupçonnait rien de l'aventure de sa fille avec le jeune Siennois. Guccio en fut convaincu par une conversation qu'il surprit un soir entre la châtelaine et son fils cadet. Guccio était dans sa chambre à l'étage. Dame Eliabelle et Pierre de Cresset parlaient auprès du feu dans la grande salle et leur voix montait par la cheminée.
Il est dommage en vérité que ce Guccio ne soit point noble, disait Pierre. Il fournirait un bon époux à ma sœur. Il est bien fait, instruit et placé avantageusement dans le monde. Je me demande si ce n'est point chose à considérer.
Dame Eliabelle prit fort mal la suggestion.
Jamais, s'écria-t-elle. L'argent te fait perdre la tête, mon fils. Nous sommes pauvres présentement, mais notre sang nous donne droit aux meilleures alliances.
Et je n'irai point donner ma fille à un garçon de roture qui, par surcroît, n'est même pas de France. Ce damoiseau, certes, est plaisant, mais qu'il ne s'avise point de flirter avec Marie. J'y mettrai bon ordre.
Un Lombard ?
D'ailleurs, il n'y songe, si l'âge ne me rendait modeste. Je t'avouerai qu'il a plus Dieu pour moi que pour elle, et que c'est la raison pour laquelle le voilà installé ici comme un greffon sur l'arbre.
Guccio, s'il sourit des illusions de la châtelaine, fut blessé du mépris dans lequel elle tenait et sa naissance et son métier. Ces gens-là vous empruntent de quoi manger, ne vous paient point ce qu'ils vous doivent, mais ils vous considèrent pour moins que leur manant. Et comment feriez-vous, bonne dame, sans les Lombards, se disait Guccio, fort agacé. Eh bien, essayez donc de marier votre fille à un grand seigneur, et voyez comment elle acceptera. Mais en même temps, il se sentait assez fier d'avoir si bien séduit une fille de noblesse, et ce fut ce soir-là qu'il décida de l'épouser, en dépit de tous les obstacles qu'on pourrait y mettre. Au repas qui suivit, il regardait Marie en pensant « Elle est à moi, elle est à moi ». Tout dans ce visage, les beaux cils relevés, les lèvres entr'ouvertes, tout semblait lui répondre « Je suis à vous ». Et Guccio se demandait « Mais comment les autres ne le voient-ils pas ?» Le lendemain, Guccio reçut à Naufle un message de son oncle où celui-ci lui faisait savoir que le péril était pour l'heure conjuré et l'invitait à rentrer aussitôt. Le jeune homme dut donc annoncer qu'une affaire importante le rappelait à Paris. Dame Eliabelle, Pierre et Jean montrèrent de vifs regrets. Marie ne dit rien et continua l'ouvrage de broderie auquel elle était occupée. Mais lorsqu'elle fut seule avec Guccio, elle laissa paraître son angoisse. Était-il arrivé un malheur ? Guccio était-il menacé ? Il la rassura. Au contraire, grâce à lui, grâce à elle, les hommes qui voulaient la perte des financiers italiens étaient vaincus. Alors Marie éclata en sanglots parce que Guccio allait partir.
« Vous me quittez, dit-elle, et c'est comme si je mourais. »«
Je reviendrai aussitôt que je pourrai, » dit Guccio.
En même temps, il couvrait de baisers le visage de Marie. Le salut des compagnies lombardes ne le réjouissait qu'à moitié. Il eût voulu que le danger durât encore.
« Je reviendrai, belle Marie, » répéta-t-il. « Je vous le jure, car je n'ai point au monde plus grand désir que de vous. »
Et cette fois, il était sincère. Il était arrivé cherchant un refuge, il repartait avec un amour au cœur. Comme son oncle, dans le message, ne lui parlait des documents cachés, Guccio feignit de comprendre qu'il devait les laisser à Cresset. Il ménageait ainsi le prétexte à un retour.